Donc bonjour à tous, bonsoir sur cette dernière session. Donc merci d'être resté. Donc on va parler ensemble. Donc j'ai intitulé ça donc le meilleur des deux mondes SharePoint 2010 et Azure. Donc pour vous donner un petit peu un insight par rapport, je dirais aux façons aujourd'hui qu'on a déjà existantes d'intégrer donc ces deux plateformes, ainsi que certaines petites choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé personnellement pour apporter un petit peu plus d'eau, je dirais, au moulin de cette partie intégration. Alors, un petit slide de présentation rapide sur ma compagnie. Donc, je fais partie de la société Cambridge Technology Partners. Nous sommes présents en Suisse donc depuis 96. Donc, ça fait 25 ans. Je ne me trompe pas. Nous avons une forte présence locale. Nous avons un fort partenariat aussi avec pas mal de clients suisses et sur du long terme. Donc, nous avons une très forte expertise à la fois en management et en conseil IT. C'est pourquoi aussi je suis là aujourd'hui, donc sur la partie, je dirais, technologie à haute valeur ajoutée. Je dirais des problématiques d'intégration comme SharePoint et Azure en étant une. Nous avons une forte présence locale, comme je disais, donc avec 3 bureaux en Suisse, un à Nyon, un à Bâle et un autre à Zurich. Et nous avons 2 centres de développement aussi en Hongrie et en Ukraine. Et aussi, nous sommes l'un des plus anciens et des plus actifs partenaires Microsoft Gold sur Suisse. Voilà, je vous propose de rentrer dans le sujet directement. Alors, le petit agenda de cet après-midi. Alors, tout d'abord, intégration SharePoint et Azure, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on veut bien vouloir intégrer ces deux plateformes qui ne sont pas forcément situées au même endroit, etc. Donc, quels peuvent être les avantages ? Donc, deuxième point, découlant de ça, donc les avantages de chacun. On va essayer de regarder un petit peu quels peuvent être les avantages dont on peut tirer des deux plateformes en les regardant telles quelles, out of the box, lorsqu'on veut les utiliser. Ensuite, les différents scénarios d'intégration auxquels on a pu penser et qu'on a déjà pu regarder, on va dire des scénarios simples ou limite un petit peu avancé. Ensuite, quelques petites démos justement sur cette facilité d'intégration et une petite, donc j'ai mis entre points d'interrogation, qui est une petite chose que j'ai faite exprès pour cette session, qui est, je dirais, une façon telle que moi je considère une vraie manière de faire l'intégration justement entre des produits tels que ceux-ci. Donc, intégration entre SharePoint et Azure. Le pourquoi. Donc, un des premiers points auxquels on pense naturellement, donc, c'est exploiter la puissance de calcul et de stockage distribué de Windows Azure. Alors, dans plusieurs de ces aspects, c'est-à-dire d'ailleurs dans le premier, donc le fait de pouvoir faire du scale-out au niveau des instances disponibles pour pouvoir faire du calcul à gros volume. Le stockage, puisqu'on a des grosses tailles de stockage disponibles au niveau du cloud. Et enfin, la partie distribuée, qui permet justement de rapprocher avec le Content Delivery Network le contenu au plus près des utilisateurs qui vont accéder au contenu une fois publié vers l'extérieur. Autre type de scénario qui peut être intéressant, donc utiliser SharePoint comme WCM, comme on peut le faire directement maintenant et comme on s'en sert déjà, gestion de contenu, gestion de liste, etc., pour publier ou interagir donc avec du contenu synchronisé dans le cloud, pour avoir des plateformes donc événementielles avec, on pourrait imaginer des publications de machines dans Azure automatiquement avec des packages préétablis pour faire des sites événementiels, avec des prises en charge de montée en charge, par exemple, ou des expositions de services pour des plateformes mobiles qui, du coup, ont été développées sur Android, Windows Phone 7 ou iPhone, et qui, elles aussi, seraient capables donc, de monter en charge et d'utiliser justement les capacités du cloud. Le troisième point, qui est peut-être le plus évident, donc réduire les coûts de maintenance. C'est vrai que lorsqu'on travaille sur des instances ou des hostings en on-premise, la majorité du temps, c'est vrai que certains coûts, lorsqu'on veut pouvoir faire du scale-out rapide ou des choses comme ça, ou avoir des besoins très rapides pour pouvoir faire des évaluations de tests de performance, etc., ça peut rapidement coûter cher. L'avantage étant encore dans la plateforme Azure aujourd'hui, on ne paye que ce qu'on consomme. Donc on démarre des serveurs, on fait les choses qu'on a besoin de faire, et après on arrête le tout. Donc ça pourrait très bien être utilisé toujours. Cette histoire de coût en lumière avec le premier point, donc toujours donc pour bénéficier de la plateforme de calcul, mais ensuite en redescendant les serveurs et en ce moment-là en limitant l'impact financier. Enfin, un autre point auquel j'avais pensé, donc exposer des applications Office avec Windows Azure, donc Office 365 en est une partie, ou d'autres parties, donc en utilisant SharePoint, Office for Web Application, ou des briques de cet acabit. Et enfin, j'ai une petite redondance, on va passer. Et donc, voilà la dernière qui rejoint un petit peu celle d'avant. Donc, migrer ces plateformes de collaboration dans le nuage, donc commencer à prendre certaines données qui sont agrégées donc, par SharePoint, par différents moyens, donc avec BCS ou d'autres types de mécanismes qui permettent de fédérer le contenu et ensuite de venir le pousser avec cette façon de faire directement dans un hosting complet dans le cloud en utilisant les online services. En petite précision, je pense que j'ai pas fait une levée de main, mais je vais peut-être le faire maintenant, ça m'éclairera un petit peu. Qui parmi vous a déjà travaillé un peu ou s'est déjà amusé justement à déployer ou à développer des solutions avec Azure? À peu près le même chiffre que hier, d'accord. Ok, donc ça c'était juste pour avoir une petite idée. Et qui, alors là je pense que je risque d'avoir peut-être une audience un tout petit peu plus grande, qui travaille avec SharePoint dans la salle? Un peu plus de monde déjà. Donc je peux comprendre pourquoi vous êtes restés. On va pouvoir regarder ça ensemble. Donc voici pour la partie du pourquoi. Alors, les avantages de chacun, donc toujours SharePoint et Azure d'un côté. Pour l'instant, on a, je dirais, les deux plateformes qui se regardent un petit peu, qui se demandent qu'est-ce que l'une peut bien apporter à l'autre. Donc, on va regarder ensemble quels peuvent être justement ces points-là. Donc, on va prendre SharePoint tout seul d'abord pour commencer à regarder un petit peu ce que SharePoint sait faire. Donc, j'ai noté ça comme ça. Puissant moteur de gestion de sites et de contenu. Donc, à la fois pour la création des sites, donc self-site creation, la possibilité donc de créer des listes sur des contenus existants, sur des contenus externes dans SQL Server ou dans d'autres types de données, rajouter des colonnes, créer des content types, etc. Donc énormément de flexibilité au niveau de la gestion des informations à l'intérieur de la plateforme. Donc la fameuse gestion des listes et des content types, donc un point qui est assez important dans la plateforme aussi. Donc gestion de sécurité fine jusqu'au SP list item, donc qui est vraiment l'objet le plus bas niveau à l'intérieur de SharePoint. C'est un point important que je voulais amener dans le sens où pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'ASP.NET ou développé des solutions qui incluent la sécurité, la majorité du temps malheureusement, même si on a des providers pour faire ce genre de choses-là, il faut reprendre et refaire ces couches-là à chaque fois, même si on a déjà des boîtes toutes prêtes, etc. Ça prend du temps, il faut les réappliquer, les réintégrer dans le contexte de l'application qu'on est en train de développer. Ici, on vient servir de la plateforme, on crée ces groupes, on crée ces utilisateurs. On peut même utiliser le claim-based authentication avec SharePoint, donc même pas se soucier vraiment de la problématique de créer des groupes de sécurité. Et on a déjà toute cette sécurité directement intégrée dans la plateforme. Donc l'extensibilité de la plateforme, donc pour ce qui est du rendu, donc des fonctionnalités que vous connaissez déjà pour la plupart, je pense. Donc les web parts en étant une, les pages. Alors j'ai noté site pages, donc qui sont les pages qui sont hébergées à l'intérieur de SharePoint directement dans la content database, dans des listes de type pages. Et enfin les application pages qui elles sont hébergées dans layouts, qui sont plus des pages applicatives, donc avec du code un petit peu externe, qui elles vont être accessibles cross-site collection et indépendamment en fonction des contextes à l'intérieur de SharePoint. Et enfin le ribbon, donc venir customiser le ribbon en fonction de certaines actions, rajouter des boutons ou des actions qui vont interagir avec le contenu. Donc après l'extensibilité de la plateforme pour ce qui est de la partie back-end, donc quelques petits points comme ça, donc les event receivers qui existent sur les listes et maintenant sur les sites aussi au niveau SharePoint, le SP job, donc une façon de faire tourner des services en background en réutilisant un petit peu toutes les fonctionnalités de SharePoint pour faire tourner comme un petit peu des services Windows mais à l'intérieur de SharePoint, les workflows. Et enfin, les services applications qui sont un petit peu un cran au-dessus au niveau de l'intégration, qui sont le remplaçant du SSP dans SharePoint 2007. Donc, on va passer à Windows Azure. Donc, Windows Azure, qu'est-ce qu'on peut bien trouver comme intérêt en regardant la plateforme toute seule? Donc, toujours le même principe que pour SharePoint. Donc aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est une plateforme élastique, donc énormément de flexibilité à donner beaucoup de puissance de calcul en très peu de temps. on est sur une plage de 5 à 10 minutes pour arriver à monter des dizaines de machines. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même une société en interne soit capable de répondre à ce genre de besoin en aussi peu de temps et à un coût aussi faible. Donc c'est une plateforme exposé sur l'extérieur par définition, puisque c'est du cloud, contrairement à votre SharePoint justement qui lui va être en interne et avec lequel on peut avoir quelques petits problèmes lorsqu'on veut discuter avec le département sécurité ou des choses comme ça, lorsqu'on se dit ah bah tiens j'aimerais bien prendre telle chose, commencer à l'exposer sur l'extérieur, etc. Non, niveau sécurité ça passe pas, on n'ouvre pas de tunnel, on fait pas de choses comme ça, donc ça c'est une partie intéressante. La capacité de stockage d'Azure, qui est vraiment non négligeable. Donc, la partie table, donc, pour stocker des entités, on est sur de l'ordre de 1 méga par élément. On peut monter jusqu'à 100 terabytes par table. Donc là, on est vraiment sur du gros volume. Et enfin, pour ce qui est des blobs, donc, stockage binaire, on est à 200 gigas par blob. Donc, ça fait quand même des fichiers assez conséquents qu'on va pouvoir venir héberger à l'intérieur d'Azure. Donc, quand je parle de blob binaire, ça peut très bien être aussi, donc, des vidéos, des fichiers binaires, mais aussi des page blob, comme ils les appellent, c'est-à-dire des disques VHD montés à l'intérieur d'Azure qui vont être récupérés et utilisés à l'intérieur d'une VM Azure. Ce sont deux scénarios différents. Et enfin, un point que je l'ai relevé parce qu'on va en reparler tout à l'heure, le storage client en est un, mais grosse partie de ce fameux SDK Azure sont utilisables dans à peu près tous les contextes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un SDK Azure qu'on est obligé d'utiliser le SDK Azure à l'intérieur d'une machine qui va être déployée dans Azure. Je peux très bien prendre une partie de ces modules-là, les mettre sur une machine en local, ou les utiliser donc dans mon SharePoint avec mon code custom, et interagir en utilisant ce SDK pour faire des actions directement sur le contenu qui lui va être hébergé dans Azure. Alors, les points d'intégration, alors je les ai notés sous forme de liste. Cette liste n'est pas exhaustive, il y en a plein d'autres. Ce sont les points qui sont généralement discutés depuis qu'on commence à parler justement d'intégration entre SharePoint et Azure. Alors, le SharePoint Client Object Model, donc intégration donc, en utilisant cet object model et en récupérant des choses en faisant des manipulations. Donc vraiment, là on est au niveau bas du code à l'intérieur de SharePoint. Le BCS, donc Business Connectivity Services, pour ceux qui le connaissent, donc le fait d'accéder des contenus depuis l'extérieur, donc liste externe dans SQL Azure ou récupérable par d'autres types d'agrégations, donc ça pourrait être les storage tables ou etc. Silverlight, qui est une façon assez simple pour ceux qui s'en sont servis, donc d'enrichir SharePoint, on crée son application XAAP, on fait des connexions avec les services SharePoint, on récupère certaines choses, donc toujours avec le Client Object Model, mais version Silverlight. Et on peut très bien venir plugger aussi dans cette partie-là une partie pour accéder à Azure, sachant qu'Azure, pour ce qui est de l'exposition à Silverlight, fonctionne entièrement en REST. Donc on a juste besoin de créer une instance d'un objet qui s'appelle Web Client, faire un WebGet sur ce Web Client pour faire certaines opérations et récupérer ou modifier du contenu selon la volonté. La solution Sandbox aussi, ça c'est plus pour SharePoint Online, donc Office 365, parce que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on part sur une plateforme pas dedicated, mais la standard donc de SharePoint Online, la seule façon qu'on va avoir de pouvoir customiser et d'apporter des mises à jour à l'intérieur de la plateforme, c'est d'utiliser le mode Sandbox. Le mode Sandbox étant volontairement limité pour éviter d'avoir des problèmes d'impact, puisque un mode Sandbox indique que votre ferme SharePoint n'est pas forcément dédiée à vous, il peut y avoir plusieurs instances aussi sur les mêmes serveurs. C'est pour éviter d'avoir des process qui vont écraser l'utilisation CPU ou consommer énormément de mémoire. Donc là, la même chose dans cette web part. On va pouvoir venir plugger encore des composants Azure pour venir interagir aussi avec du contenu externe. Enfin, donc le client Office Custom, donc là, les plugins tels qu'on a pu les voir déjà avec Office 2003, 2007 et puis ici 2010. Donc un petit add-in .NET. On va récupérer des listes, pouvoir faire des affichages, commencer à pré-remplir ou à récupérer des informations donc, par rapport au cloud directement dans des champs pré-remplis, etc. Ensuite, OpenXML, c'est un point que j'avais trouvé intéressant. Donc OpenXML, l'avantage, c'est que contrairement à d'autres versions d'Office, pour ceux qui ont connu ça, je ne suis pas obligé d'avoir Office installé sur le serveur pour pouvoir faire du parsing de documents Office. Là, pour le coup, j'ai uniquement besoin de récupérer le fichier. Si j'ai exposé certaines propriétés sous forme de métadonnées à l'intérieur de mon fichier XML dans ce document-là, je vais pouvoir les récupérer, les modifier à l'intérieur du cloud. Donc c'est là où on peut avoir une espèce d'interaction entre le format de document et puis le cloud. Les SharePoint Services, donc là, ce dont je parlais tout à l'heure, donc toujours ces SPJob, etc. Donc le fait d'avoir des process qui tournent derrière pour faire de l'intégration de données, récupérer des choses, publier ou valider ou entrecroiser certaines informations avant de les manipuler et de les poster dans le cloud, par exemple. Link. Sachant qu'on remonte des objets depuis le cloud qui sont basés sur des entités, on peut aussi venir faire du requêtage sur l'ensemble des données qu'on récupère depuis le cloud. Et enfin, le search. Donc on pourrait très bien penser à faire un federated search, c'est-à-dire commencer à brancher des composants un petit peu custom pour venir requêter et intégrer les données qui sont dans Azure à la recherche de SharePoint pour étendre un petit peu la plateforme. Voilà pour les points techniques. Un petit slide sur les avantages. Alors, j'ai voulu en parler très rapidement. C'est surtout la partie de droite en fait que je voulais commenter un petit peu. On reprend un petit peu les points qu'on a vus juste avant. Donc, potentiel d'Azure, donc par rapport à SharePoint, la disponibilité, l'avantage. Dans le cas des instances doublées ou du storage, c'est qu'on a 100% de disponibilité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui tombe, sachant que c'est un service qui était fait pour le cloud, que ce soit au niveau du load balancing, du nombre de connexions redondantes, toutes choses comme ça, il n'y a aucun espèce de problème. Donc, contrairement à votre SharePoint en interne qui pourrait avoir, je ne sais pas, un problème de disque, etc., ça peut toujours arriver malheureusement. Donc là, on est un petit peu plus safe de ce côté-là. Donc toujours avec l'exposition des données dont je parlais tout à l'heure, applications externes et mobiles. Les ressources, donc stockage et gestion de données volumineuses, c'est vrai que on en reparlera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais aujourd'hui dans SharePoint, lorsqu'on utilise le stockage de fichiers standard dans SharePoint, la limite est de 2 gigas. On ne peut pas mettre un fichier plus gros que 2 gigas dans SharePoint, et cela même si l'on utilise RBS, qui est la fonctionnalité de stockage du fichier en dehors de la base de données. En fait, c'est une limite physique au niveau de l'upload HTTP. Puisque lorsqu'on upload un fichier dans SharePoint, on continue à l'uploader à travers HTTP. Et c'est la limite du protocole qui par-dessus la plateforme, fait qu'on ne peut pas dépasser les 2 gigas. Ensuite, donc, la réutilisation, ça c'est un point intéressant. Azure, c'est du .NET. SharePoint, c'est du .NET. Donc grosso modo, si vous savez faire l'un, quelques petites informations ou connaissances en plus, pas grand-chose, et vous savez faire les deux. Donc l'impact, comme je disais, petit point où je voulais passer peut-être un poil plus de temps. Donc la translation des données. Donc là, on commence à prendre certaines des données dans SharePoint et à les déplacer ailleurs, en gardant des liens ou pas. Alors, c'est là où la problématique donc de site événementiel, site mobile ou de publication externe peut avoir un intérêt. La meilleure disponibilité. Donc là, toujours dans cette idée justement du cloud qui est disponible 100% du temps. Et enfin, une meilleure programmabilité, puisque malheureusement, il y a des choses qu'on peut faire dans SharePoint, il y a des choses qui sont plus difficiles, voire même carrément compliquées. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on passe sur Azure, on passe sur de la ASP.NET, on passe sur du code .NET complètement standard, on a accès à une machine Windows Server 2008 complète, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, on peut vraiment bypasser ces problématiques-là et les déplacer ailleurs, pour éviter d'avoir à les intégrer dans SharePoint et après avoir d'autres problématiques de migration lorsqu'on va vouloir mettre à jour des composants qui ont été développés qui ne sont pas forcément super standards, etc. et où on a cassé un petit peu certains modèles pour se permettre certaines choses. Donc les scénarios d'intégration, donc rapidement aussi, ici j'ai juste pris certains des blocs de SharePoint et d'Azure. Le problème ici, c'est que au vu de la flexibilité et de la plateforme de SharePoint et d'Azure, on va pouvoir avoir quasiment tous les scénarios possibles. C'est-à-dire que ici, j'ai juste essayé de mettre quelques flèches par-ci par-là. Donc, une webpart qui se connecte directement à SQL Azure, faire ça avec le Client Object Model, faire ça depuis BCS, utiliser des services qui se connectent à SQL Azure. La même chose pour ces quatre-là avec des services WCF. Je vous épargne le fait de vous montrer encore les trois autres en mettant des flèches partout, mais c'est à peu près l'idée. On pourrait très bien interagir vraiment tous ces éléments les uns avec les autres. Après, l'idée, c'est peut-être de réfléchir sur le comment et surtout le bien fondé justement de l'utilisation de chacun de ces scénarios. Il y en a d'autres, il y en a certains qui sont intéressants, d'autres non. Surtout pour la pérennité de la solution. Donc maintenant, on va passer aux démos. Donc, je vais vous faire une première démo donc simple avec une web part, vraiment très basique, pour vous montrer un petit peu qu'il y a vraiment rien de compliqué. Je vais vraiment vous montrer deux lignes de code pour vous montrer un petit peu la facilité d'intégration qu'on peut obtenir à ce niveau-là. Ensuite, je prendrai un truc un petit peu plus intéressant dans le sens intégration à proprement parler, c'est-à-dire vraiment un lien vraiment intéressant entre SharePoint et Azure, donc Azure et le BCS. Et enfin, je donne toujours pas de nom, je tease un petit peu, je suis désolé. Une dernière démo qu'on garde pour la fin, je la garde au chaud depuis tout à l'heure, on va attendre un petit peu. Donc, on va commencer donc par une petite... Ah, zut, j'ai fermé mon... Ah, ça c'est dommage. Alors, je vais juste retrouver ma présentation, si ça vous embête pas. Hop. J'en étais où ? Je suis vachement plus bas. J'en étais quelque part par là. Désolé. Et voilà, donc on va pouvoir baisser ici. Donc j'avais préparé la chose. Donc ici, on va venir ouvrir ici une petite web part. Donc on va commencer par regarder donc un service. Donc ici, pour ceux qui ont l'habitude, donc ça c'est un site web ASP.NET standard. Il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Je suis juste venu créer un service WCF. Donc on peut voir ici donc avec son interface de méthode et ici donc le service avec son code behind. Donc on voit le code behind ici. Toujours aussi dans la simplicité, donc j'ai créé un modèle Entity Framework donc qui se branche sur SQL Azure. Donc là en fait j'ai SQL Azure qui est derrière mon service, qui contient une table, donc qui s'appelle Customer. Je pourrais limite vous la montrer, mais bon, je pense pas que ça reste une table. Donc la seule chose que je fais, c'est que je viens me connecter donc ici, je récupère mon entité, je fais ma query, je retourne les résultats. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc on peut aller voir ici, donc j'avais préparé la chose donc ici dans mon hosted services ici. Donc j'ai mon service qui est déjà déployé. Donc le petit résumé par rapport à Azure pour la forme. Donc mon déploiement CTP Tech Days 2011, donc qui est un déploiement de type prod, donc c'est le déploiement de production dans Tech Days 2011. J'ai mon rôle WCF Services et ce rôle n'a qu'une seule instance. Comme j'expliquais tout à l'heure, le fait de pouvoir faire un scale-out, je pourrais très bien en rajouter 3, 4, 6, 12, mais bon, là pour la démo, je pense que je ne vais pas vraiment saturer mon service, on va pouvoir s'en sortir avec un seul. Donc voilà pour le service. Je viens donc changer ici et ouvrir ma web part. Donc là, rien de sorcier non plus. Je suis dans SharePoint, je crée une nouvelle solution SharePoint, j'ajoute un élément donc, de type web part. Donc, on peut juste le revérifier ici. Donc add new project. Donc on a toujours, donc, pour ceux qui connaissent, donc SharePoint 2010. Donc là, on a l'ensemble des composants. Donc je suis venu ajouter une visual web part. Donc, jusqu'ici, rien de compliqué non plus. J'ai ma super web part. Et dans ma web part, j'ai pas fait un travail phénoménal non plus. Hein. J'ai pris, comme je disais, vraiment quelques lignes pour montrer un petit peu la simplicité pour faire ça sans avoir à faire trop de code. Je crée un basic HTTP binding. Je crée un endpoint qui pointe sur mon service qui est déployé dans le cloud. On peut vérifier ici donc CTP Tech Days 2011 at cloudapp.net qui est l'URL de base des services qui sont déployés dans le cloud. Donc on revient ici et logiquement si je clique ici on voit là où il y a ma souris donc qu'on est bien sur le même domaine. On va essayer d'y accéder pour voir si ça fonctionne. Chez moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf si Internet a décidé de ne pas marcher, là par contre. Bon, très bien, c'est normal, j'ai pas de page par défaut, etc. Donc 2IS me dit vous n'avez pas le droit de voir le listing du site. Tout va bien. J'accède à mon service, donc mon service est bien là, il est dans le cloud, il fonctionne, très bien. On va revenir à l'intérieur de Visual Studio, donc après, comme à l'habitude, je me mets ici, je fais F5, donc on attend que le build se fasse, donc c'est un petit peu long vu que la machine a démarré, donc le démarrage de la build, voilà, le déploiement qui est en train de se faire. Hop, hop, hop. Monsieur ajoute la solution. Active la feature. Hop. Mon SharePoint doit venir s'ouvrir maintenant. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Je vais pas enregistrer les credentials. Je vais le faire, ça va nous faire gagner du temps. Donc voilà, après rien de sorcier sur la partie debug, je suis juste en train de vouloir débugger une solution SharePoint. Donc j'ouvre SharePoint, je vais venir accéder à ma page. Hop, j'édite ma page. Ici, je vais venir me placer là. Je vais lui demander d'insérer une webpart qui est type custom. Visual Web Part, je fais add, donc là les binaires de l'assemblée vont être montés dans le GAC, etc. Elle va être instanciée. Ça prend un petit peu de temps. Donc une fois ça tout fait, il va juste venir m'afficher ma web part, voilà. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Donc intégration, somme toute assez simple, un service à l'extérieur hébergé dans le cloud, une base. Je viens, je branche, ça fonctionne. Je vais la supprimer histoire de. De laisser mon dashboard de site propre. Voilà. Hop. On va remonter et on va arrêter d'éditer la page. Voilà. Et on arrête le debug. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie simple. Maintenant, on va regarder ensemble, comme je vous disais, donc une intégration un petit peu plus intéressante. Donc, le fameux BCS. Certains d'entre vous connaissent BCS, ont déjà utilisé ou. Ok, je vais peut-être passer deux secondes pour expliquer un petit peu ce que c'est. En gros, BCS, c'est quoi ? C'est juste une définition de métadonnées qui va permettre à SharePoint de savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Pour faire simple, ça va me permettre de prendre n'importe quel type d'information à l'extérieur de SharePoint, donc dans notre cas Azure, ça pourrait être très bien du SQL Server ou quelque chose qui soit connecté complètement à l'extérieur de SharePoint dans un autre type d'environnement. Je pense à SAP par exemple, puisqu'il existe des connecteurs SAP basés sur BCS. Donc venir à l'intérieur de ce modèle. Et donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait avec ce modèle ? En gros, voilà, donc j'ai demandé une entité. On lui donne en général deux méthodes par défaut pour que SharePoint puisse travailler avec, c'est readList et readItem. Donc le readList, je lis la liste des items qu'on me donne, et puis un readItem, je me focus sur un item en particulier. Donc au minimum, ces deux méthodes. On peut aussi ajouter une méthode d'update, et à ce moment-là, SharePoint va être capable de savoir que ce repository, en fonction des données qu'on lui passe, va être capable de mettre à jour du contenu. Donc grosso modo, ce que je vous disais, donc ici, mon readList contient donc une instance de méthode qui est une instance de type readList instance, donc c'est ce qui dit bien SharePoint. Ça s'appelle readList, mais c'est une readList instance, donc quand j'ai instancié cette méthode-là, je peux faire un readList dessus. Et la même chose ici pour le readItem. Après, là où ça devient un poil plus compliqué, c'est lorsqu'on va venir justement définir son objet ici. On vient empiler ce que Microsoft appelle des type descriptors, donc empiler une définition de métadonnées qui va permettre de dire à SharePoint comment il récupère l'objet, comment il redonne. Donc ici, ça veut dire donc typiquement ici sur le readItem, je lui donne en paramètre un customer ID, qui est ici mon customer ID, donc qui est un int, comme vous pouvez voir ici. Et en retour, il me retourne un return customer, qui contient un type donc de, ici on peut le voir rapidement, donc la classe customer en fait que j'ai référencée à travers mon proxy directement sur le service WCF. Donc c'est là où j'aurais tendance à dire la magie opère. Donc automatiquement il sait quel type il va vouloir mapper. Donc c'est derrière ça fonctionne comment, c'est uniquement de la réflexion. Il va venir regarder, faire un match du type, instancer le type dynamiquement et puis essayer de rajouter les valeurs. Donc après, toujours malheureusement à faire à la main. Je lui rajoute l'intégralité des champs qu'il contient. Donc ici, la majorité sont des strings, sauf l'identifiant qui est un int. Et automatiquement, il va être capable de dire, OK, l'objet que tu me donnes contient first name, contient last name. Hop, j'essaie de trouver la propriété first name dans ce que j'ai créé à l'instance et j'essaie de la mettre dedans. Voilà. Donc, une fois ça tout fait, on va faire un petit build de ça. Je vais déployer... Je vais juste faire un deploy, en fait. Je vais pas rentrer en mode debug pour cette partie-là, puisque c'est assez pénible. Il faut passer dans l'admin, il faut activer le modèle pour être disponible au niveau du site, etc. Donc, on va juste faire ça comme ça. Donc, on va vérifier quand même que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? OK, parfait. Donc, on va revenir ici. Alors, il faut malheureusement que j'aille dans la centrale admin. Les types BCS étant vraiment publiés à un niveau assez élevé, on ne peut pas forcément y accéder sans qu'on ait été autorisé à accéder à ce genre de contenu. Donc on va dans l'admin. Donc dans l'admin, on parlait tout à l'heure des services application, donc qui sont pas mal de blocs qui ont été séparés dans SharePoint, qu'on peut ajouter sur une ferme et qu'on peut partager avec d'autres fermes. Donc ici, je vais venir ici donc dans Manage Service Applications. Et dans Manage Service Applications, donc j'ai la gestion donc de Business Data Connectivity Service. Donc ici, je vais venir à l'intérieur de mon Business Data Connectivity Service et je vais pouvoir voir donc mon super objet, voilà, Azure Customer. Parce que là, tout va bien. Je le sélectionne. Alors malheureusement, ce que je vous disais, donc je suis obligé d'ajouter des permissions là-dessus. Donc là, je vais venir ajouter... Ah, mais il l'avait gardé. Ah bon, OK, pourquoi pas. On va juste valider. Pendant ce temps, donc monsieur travaille, on va venir ici sur le site principal. Et donc là, on va venir travailler comme on fait d'habitude, c'est-à-dire créer une nouvelle liste, puisque là tout va bien. Et pour ceux qui connaissent justement BCS, on a un type de liste qui est intéressant, qui est l'external list. Donc je demande une external list. Donc cette liste, elle a la particularité en fait de venir se coller uniquement sur un modèle BCS. Donc c'est là où la petite subtilité. Je lui dis que je vais me caler justement sur mon Azure Customer. Donc on pourrait avoir plusieurs listes. Et l'autre avantage aussi, c'est que SharePoint, sachant faire le lien entre les listes, déjà nativement, si on les expose, si on expose des liens à travers un modèle publié à travers BCS, on gardera aussi ces liens lorsqu'on créera les listes de type externe, donc basées sur BCS. Donc ici, je vais appeler ça Cloud Customer. Je lui demande de créer la liste. Là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Allez. Donc là, l'avantage de ça aussi, c'est que comme on est en train de prendre un contenu externe de l'héberger en tant que liste, cette liste-là, après, quand elle est dans SharePoint, on peut faire tout ce qu'on fait avec une liste habituellement. On peut l'intégrer dans des formulaires d'édition, on peut l'utiliser dans InfoPass, on peut l'utiliser pour faire du filtrage, etc. Il n'y a absolument aucune espèce de limitation de ce côté-là. Donc là, on voit bien que j'ai ma super liste qui fonctionne. Au pire, j'aurais pu... Après, je ne vais pas avoir trop de temps pour finir. J'aurais pu vous faire une modification pour voir que les récupérations sont bien depuis SQL Azure. Mais on va passer à autre chose. Donc on va revenir ici. Donc on a vu la première démo, on a vu la deuxième démo. Ça, c'est quelque chose que j'ai zappé. Donc la démo en supplément, Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a motivé, ce qui m'a motivé à pas tout de suite en parler. C'est parce que aujourd'hui, donc, quand on parle d'intégration, il y a toujours cette problématique de dire, donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est l'intégration code. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui prends mes petites mains, qui vais commencer à vouloir coder, à dire, bon, bah, tiens, je veux faire ça avec ça, etc. On va dire, la flexibilité de ce que j'ai montré pour l'instant, on va dire, c'est pas vraiment génial. À chaque fois, il faut dire, bon, bah, là, on va faire ça comme ça, etc. Il faut repenser quasiment à chaque fois à la façon d'intégrer. Et puis, on n'est pas en train de vraiment parler d'intégration. Là, on parle de, j'ai quelque chose à un endroit, je le mets à un autre, je requête quelque chose à partir d'un autre endroit. Si vous voulez, c'est pas vraiment de l'intégration. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour avoir une vraie intégration, quelque chose qui leverage vraiment les deux parties, qui soit facile à utiliser et qui aide vraiment les gens qui vont vouloir s'en servir. Pas, je vais vous montrer un pauvre web service qui est hébergé quelque part et qui se fait accéder par une web part. C'est vrai qu'en même temps, c'est pas vraiment génial. Je me suis posé cette question-là, et en me posant cette question-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, pourquoi pas développer un fil, donc un fil SharePoint, un petit peu comme vous les connaissez, donc avec les choice, les champs texte, les entiers, etc., qui se base sur Azure. Donc, l'idée derrière ça, c'est quoi ? L'idée derrière ça, en fait, c'est de prendre un fichier que je vais donc avoir sur ma machine. Et lorsque je vais demander à SharePoint de prendre ce fichier, il ne va pas le télécharger dans la Content Database, mais il va aller le mettre dans Azure. Donc, on se demande à quoi ça pourrait bien servir. Donc, la première chose qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas de limitation de taille, puisque là, on est en train de parler, comme je vous montrais tout à l'heure, de blobs qui sont capables d'encaisser jusqu'à 200 gigas au niveau des fichiers. Donc, on peut venir uploader un fichier jusqu'à 200 gigas, il n'y a pas de limitation de ce côté-là. L'autre petit point que j'ai pas noté là et qui m'y fait penser, en regardant ça, c'est que lorsqu'on parle de stockage, on parle aussi justement d'impact par rapport à SharePoint. On sait que si dans SharePoint on commence à mettre beaucoup de gros fichiers, justement, ça risque d'avoir un impact très lourd au niveau des performances. Là, on se sépare complètement de cette problématique-là et justement, on leverage. Si vous vous rappelez mon slide sur Azure tout à l'heure, on prend Azure. Sur ce pourquoi il est bon, c'est-à-dire encaisser des grosses charges d'accès au niveau des fichiers, etc., parce que monsieur a des grosses bandes passantes, et aussi le fait de pouvoir stocker des gros fichiers sans que ça le dérange plus que ça. Autre point intéressant, donc c'est un SharePoint Field. Donc l'avantage d'un SharePoint Field, c'est qu'on peut l'ajouter comme une colonne. Et l'autre avantage que ça a, c'est que je pense que certains d'entre vous se sont déjà plus ou moins posé la question, c'est j'ai une library avec un document à l'intérieur, je veux ajouter trois documents à la même ligne. Comment est-ce que je fais ? Bah, dans SharePoint, on peut pas. Donc là, l'avantage de cette solution-là, c'est qu'on crée trois colonnes Azure, chacune avec un nom différent, qui match, on va dire, le besoin business. À ce moment-là, on va venir mettre le contenu nécessaire dans chacune des colonnes et on va pouvoir l'utiliser de manière standard. Donc, d'autres avantages par rapport à ça, on en parlera après. Je crois que j'en parle après. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, l'autre point important par rapport à ça, c'est justement, on parlait d'upload et de download. Aujourd'hui, protocole HTTP pour faire de l'upload et du download, c'est pas forcément ce qui est le plus génial. On a des choses qui sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus intéressantes à faire. Donc, ce que j'ai utilisé pour cette partie-là, donc, c'est un client Silverlight qui va être capable de prendre votre fichier, de le découper en morceaux, et de l'uploader en utilisant ces morceaux. Donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la version que je vais vous montrer ne le permet pas, mais c'est prévu pour plus tard, va être capable de dire « J'ai essayé d'envoyer un morceau, le morceau, ça s'est mal passé, je réessaye, c'est pas grave. » Lui, il a la main justement sur les différents items qu'il va être capable de donner à Azure. Et même chose au download, c'est-à-dire si jamais, pour une raison X ou Y, il va venir télécharger les X morceaux qui composent notre fichier, si dans ces morceaux-là, il y en a un qui a mal été downloadé, à ce moment-là, il va réessayer. Il va regarder donc ce qui est possible d'utiliser dans Azure, une clé MD5, donc qui permet de vérifier le hash au niveau de la partie du fichier qui a été downloadé, et vérifier si la clé MD5 correspond bien au contenu qui a été téléchargé. Et la dernière chose, donc, chose qui peut être aussi intéressante dans ce contexte-là, toujours dans cette idée de dire, ah, j'ai mon SharePoint en interne, j'ai un fichier, il est gros, etc., je peux pas l'envoyer, etc., par email, 10 gigas, ça risque d'être un peu difficile. Donc, comment est-ce que je peux faire pour aider dans cette logique-là ? Donc, l'idée, c'est de dire, On est toujours basé sur SharePoint, donc quelqu'un a accès à une liste. Si cette personne a accès à la liste, donc elle a accès au contenu. Donc si elle a accès au contenu, elle peut accéder à ce champ-là pour venir le partager. Donc la seule chose que ça va faire, c'est générer un lien, donc basé sur les shared access signatures pour ceux qui connaissent dans Azure. Donc c'est une manière de mettre un timestamp, on va dire plutôt un time bomb sur un item en fonction d'une clé cryptée, et de donner cette URL-là à un utilisateur pour qu'il puisse venir télécharger le fichier pendant la période de temps impartie. Donc on va passer à la démo. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les fichiers, je vais vous épargner ça. Donc en gros, cette solution donc, se base sur un fichier XML donc, qui permet de déclarer dans SharePoint que je lui ajoute un nouveau type de colonne. Une fois ce nouveau type de colonne donné, donc, je vais avoir un certain nombre donc, de JavaScript ici et de services qui vont venir permettre à SilverEye de savoir ce qu'il doit faire, c'est-à-dire est-ce que j'ai des fichiers à télécharger, est-ce que lorsque j'ai fini, je dois notifier SharePoint en lui disant « Ok, j'ai bien fini d'uploader, donc l'URL que je suis en train d'utiliser du container, c'est celle-là, etc. » Ensuite, on a un certain nombre de contrôles, donc le contrôle visuel qui permet de rendre l'objet et ainsi que ses propriétés, on regardera ça tout à l'heure. Un certain nombre de classes dont j'ai besoin pour pouvoir interagir avec le cloud. Un module pour déployer l'application SilverEye, et puis voilà. Alors, juste comme je vous disais tout à l'heure, je voulais vous montrer ce petit point ici, là. On voit bien que je suis venu ajouter dans une solution SharePoint un binaire qui correspond au SDK d'Azure pour venir faire directement donc des interactions avec Azure. Donc je suis pas du tout dans Azure, là ma solution je vais la déployer directement sur mon SharePoint en local et c'est mon SharePoint en local qui après va venir se connecter dans Azure. Donc ici, rapidement aussi, donc on a notre application Silverlight avec une toute petite partie, je voulais remontrer rapidement, donc une partie qui permet de gérer l'upload dans l'eau, donc j'ai juste implémenté une petite interface pour que ce soit plus facile à utiliser, avec deux méthodes, donc un initialize, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à faire de ce côté-là, et un start transfert. Et à ce moment-là, le transfert est initialisé pour Azure. Donc comme on l'a fait jusqu'à maintenant, je vais venir ici et je vais demander de packager et de déployer l'ensemble de tout ça à l'intérieur de SharePoint. Donc là, ça devrait pas être trop long, vu que SharePoint a été chauffé un petit peu avec les solutions que je lui ai données tout à l'heure déjà. Et donc on va venir réouvrir SharePoint ici. Voilà. Donc ici on va faire ça à l'ancienne pour vous montrer qu'on est bien en train de faire quelque chose. Je vous montre bien quelque chose qui fonctionne et qui a été développé, non pas quelque chose qui est un petit peu. Alors je vais appeler ça comment ? My list. Je suis pas très très inspiré. Donc on va créer une nouvelle liste de type Azure, donc là une liste vide, rien de particulier ici. Je vais juste venir ajouter une colonne name et une colonne age par exemple, en disant qu'on parle des participants au Tech Days, et ensuite donc on va revenir juste créer une colonne supplémentaire. Et je n'ai pas mon type. Ah, c'est intéressant. Donc là, on va prendre la deuxième technique. On va faire un AIS reset. Des fois, il y a des petits soucis justement avec les colonnes custom. Ça arrive que quand on les déploie, si on a déjà fait un premier déploiement avant, c'est peut-être oublié quelque chose hier. J'ai fait ça jusqu'à 1h du matin, donc il y a peut-être eu un petit oubli derrière. Je vais. Où est-ce que je suis là ? Je suis pas dans le bon. Je vais vite faire un retract. Déjà, ça aidera mieux. Donc on recommence. Donc là, ma liste est déjà créée, ça me fera gagner un tout petit peu de temps. On réouvre notre navigateur pour accéder à SharePoint. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, les reset, c'est quelque chose qui est assez destructif. Donc il a tout nettoyé de la mémoire. Donc on va espérer que monsieur veuille bien répondre. Voilà. Donc on se reconnecte. Je vais revenir si tout se passe bien. Décidément. Je vais revenir sur ma liste. Voilà. On va repasser dans les settings et on va venir. Espérons que cette fois-ci ça fonctionne. Voilà. Donc ici, je vais lui demander un Azure Blob Content. Donc trois clés nécessaires. On va venir les chercher directement ici. Donc sur mon blob, on a vu donc ici un storage account qui est ici. Donc CTP Tech Days 2011. Donc ça, c'est le nom de l'instance. Donc c'est comme ça qu'on va revenir y accéder. Donc CTP Tech Days 2011. La clé qui est cachée ici, on va venir la copier et la mettre ici. Et le blob container, donc ça je vais vous montrer ça rapidement. Donc pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu déjà le Storage Explorer donc qui permet de naviguer à l'intérieur des blobs, je vais donc me connecter. Donc à l'intérieur du blob, on va voir ici que j'ai déjà normalement un container donc qui s'appelle SP container, donc pour SharePoint container. C'était juste pour la démo. Donc vous voyez qu'il y a un petit canard dessus. Donc c'est j'ai supprimé ce qu'il y a déjà ici. Hop. Donc je vais juste venir revenir ici et donc lui donner le nom du container. Ok. Ah, faut peut-être que je lui donne un nom. Ok. Voilà. Donc là, le lien vient de se faire. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à retourner sur ma liste. On y rajoute un nouvel item. Donc ici une petite subtilité, ce que j'ai fait c'est que vu qu'on pourrait commencer à uploader un contenu sans qu'il soit vraiment créé dans SharePoint, j'ai préféré éviter ce genre de problème. Donc quand on est à la création, on ne peut pas uploader un fichier en même temps. Donc là pour l'instant on va juste créer un item, je vais mettre moi tiens par exemple, et voilà, je sauvegarde. Donc ici j'ai mis mon item, on va revenir éditer mon item, puisque je voudrais pouvoir uploader quelque chose. Donc je clique sur mon bouton upload. Donc là, j'ai mon client Silverlight qui va venir se lancer. On va attendre un petit peu, qui demande à SharePoint, OK, est-ce que j'ai quelque chose à faire? D'accord, il faut que j'uploade quelque chose. Je clique sur upload. On va venir chercher un fichier. J'avais pas grand-chose comme fichier sur ma machine à uploader. On va prendre 6 mégas, comme ça, il utilisera les chunks. Voilà, je lui donne le fichier. Donc là, il est parti. Il commence à prendre le fichier, il le package, et il est en train donc de le couper en morceaux et de l'uploader directement dans le cloud. Et il a presque... Il va bien vite. Je suis surpris. Ici, on va revenir dans notre container. Voilà, il a été très rapide. Moi, chez moi, je n'ai pas une connexion aussi rapide. Donc voilà, donc mon fichier est déjà dans le cloud. C'est très bien. Donc on peut aussi, après de la même façon comme je vous disais tout à l'heure, je vais fermer ça et je vais fermer ça. Donc ici, je vais venir faire F5. Voilà, donc on voit, donc fonctionnant toujours sur le même principe des données à l'intérieur de SharePoint, je stocke juste, ayant toutes les informations pour accéder au blob, que ce soit les clés, etc., et le container, je stocke juste justement l'ID qui correspond à l'élément qui est dans Azure. Et à ce moment-là, je suis capable de retourner pour aller le chercher. Donc ici, j'ai fait un edit item pour pouvoir uploader une nouvelle version. Donc dans le view maintenant, contrairement à tout à l'heure, où j'aurais eu un message qui me disait « il n'y a pas de contenu qui a été uploadé, donc je ne peux pas vous autoriser à downloader quoi que ce soit », je vais faire de la même façon. Donc je clique sur « Download ». et je vais pouvoir télécharger. Donc là, j'ai fermé la fenêtre à chaque fois, mais on pourrait très bien uploader, downloader plusieurs fichiers qui viendront s'empiler de manière automatique dans la fenêtre. Donc un petit peu dans le principe d'un download manager. Donc ici, pareil, je demande le download. Donc là, je vais appeler ça mon fichier .mp4.3. Bon, j'aurais dû prendre un fichier qui soit ouvrable, puisque là, un fichier .mp4.3, c'est pas, c'est les seuls fichiers un peu gros que j'ai trouvé sur ma machine. Je suis désolé. Donc, on va attendre que le fichier se télécharge bien. Ça a l'air d'être bon. On va juste regarder. Je vais fermer toutes ces fenêtres, il y en a un peu trop. Juste revenir dans mes files. Donc ici, on va juste regarder ce fichier-là et puis mon fichier qui est ici. Et juste pour montrer que je ne suis pas en train de vous raconter des bobards, donc on voit bien qu'au byte près, les fichiers sont bien identiques. Donc je l'ai uploadé, je l'ai retéléchargé, tout ça fonctionne parfaitement. Donc pour la dernière partie, la dernière petite chose que je voulais vous montrer, puis après on passera sur le dernier slide, c'était le fait de pouvoir cliquer sur le bouton share. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de client web à l'intérieur de mon Windows Server. Je n'ai pas installé Live Messenger ou ce genre de choses. Ce qui se passe, en fait, quand on clique sur le lien, SharePoint va dire « Est-ce que vous voulez partager ce contenu avec l'extérieur ?» Donc là, c'est là où je me prends ce fameux message d'erreur qui n'est pas forcément très utile. Où là, en fait, la page est en train de me générer un lien de type Mail-to et de m'embedder dans le subject, dans le content du mail qui va être possible d'ouvrir, le lien qui va permettre d'accéder à ce contenu-là pendant une journée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément réglable, j'ai mis ça par défaut sur une journée. Donc voilà un petit peu pour la démo. Voilà, on va revenir. Hop, on va revenir ici. Pourquoi il m'a remis là ? Oui, tac. Donc la démo, on a dit. Donc, la petite annonce qui va avec ça, justement, c'est que donc ce SharePoint Azure Blob Field est disponible sur CodePlex. Donc, vous pouvez aller le télécharger et l'utiliser dès que vous rentrez à la maison. C'est génial, vous allez passer un week-end super. Donc, vous pouvez le télécharger. Alors, quand je dis télécharger, ce n'est pas le WSP que j'ai mis à télécharger, c'est le code source. Donc si jamais vous avez envie de prendre ce code source, de comprendre comment il fonctionne, de le modifier, d'y apporter des mises à jour, vous pouvez. La seule chose que je vous demanderai, même si la licence ne l'inclut pas, c'est si jamais vous faites des mises à jour qui aident à faire certaines petites choses d'une meilleure façon, s'il vous plaît, dites-le moi, comme ça je les intégrerai au tronc principal, et comme ça on pourra continuer à utiliser cette solution améliorée. Donc, comme je vous dis, donc télécharger et utiliser. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur CodePlex ou à m'envoyer directement des commentaires sur mon email ou sur mon compte Twitter qui est affiché ici. Voilà. Et puis, un superbe dernier slide, justement, qui montre que deux personnes qui ne sont pas forcément au même endroit peuvent continuer quand même à s'aimer. Voilà. Des questions ? Même pas une petite question. Petite question non plus.
Pourquoi s'il n'y a jamais de questions à la dernière session, vous voulez tous partir ?
Il y a peut-être un petit peu de l'idée, oui, je pense. Ouais. En même temps, c'est 5 heures, c'est vendredi.
Non, c'est pas vendredi, c'est mercredi.
Je suis décalé dans ma tête, décidément.
Bon, s'il n'y a pas de questions, j'ai juste une petite annonce. Il semblerait que j'ai vu passer une autre annonce qui dit que le prochain TechEd est en juin 2012. Donc cette année, il n'y aura pas de TechEd à confirmer. Donc, Brigitte me confirme. Et donc voilà, merci beaucoup d'être resté aussi tard. Merci beaucoup d'être venu. Et je vous donne rendez-vous dans 18 mois au prochain Tech Days. Et puis en attendant, donc, que toutes les annonces faites précédemment tiennent, on va faire une journée Office 365 au mois de juin. Et après, on va faire au mois d'octobre du Re-Tech Days. Un jour ou deux au niveau du développement, puis un jour au niveau de l'infrastructure. Et j'essaie de j'essaierai de faire au moins un jour sur les bases de données lorsque le Denali sera public. Voilà, merci beaucoup d'être venu et bon retour chez vous. Et voilà, à l'année prochaine.
Merci beaucoup. Merci.